Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé demain.
Frédéric Tadini.
Bonjour Nicolas Pagnol.
Bonjour.
Vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol et son ayant droit. C'est vous qui avez retrouvé une pièce inédite de votre grand-père, Gabi ou La Belle et l'Argent, qui vient d'être adaptée en bande dessinée par Véronique Grissot et Luc Braille et Michel Lafond. On va en parler. Mais on célèbre actuellement le 50e anniversaire de la mort de votre grand-père. Est-ce que ça se passe comme vous l'espériez ?
Ah oui, et même bien mieux. C'est-à-dire qu'il y a des commémorations, bien sûr, en région sud, dans toute la France et aussi à l'international. Là, je reviens du Brésil où je donnais une série de conférences. Plus tard, je pars à Budapest. Il se passe quelque chose à Santiago aussi. Et une très, très belle programmation en France. Rétrospective à la Cinémathèque française, au Festival international du film de La Rochelle, concert symphonique à Aubagne, de toutes les musiques de films depuis 1931 avec Grosmont jusqu'à le temps des secrets. Je suis vraiment très content. C'est un très bel hommage.
Alors pour moi, il y a trois Pagnols. Hein. Je l'ai dit à Carinane il y a 15 jours. C'est elle qui a écrit Marcel Pagnol, un autre regard. Et j'ai envie de vous poser la même question. Il y a pour moi le Pagnol trentenaire qui triomphe au théâtre avec Topaz, Marius et Fanny. Il y a le Pagnol quadragénaire qui se révèle un grand cinéaste. Il va réaliser des films pendant une vingtaine d'années. Et puis il y a le Pagnol sexagénaire qui devient écrivain et fait encore un triomphe, mais cette fois avec ses souvenirs d'enfance, la gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets. Ces trois Pagnols, on a tendance à les confondre et pourtant, quatre décennies les séparent. Il y a un homme mûr, un vieux monsieur. Est-ce que c'est le même ?
Oui, je pense que c'est le même. C'est le même homme épris de liberté. S'il y avait une césure à faire, c'est entre le Pagnol de Les Marchands de Gloire, Jazz, Topaz, c'est ses œuvres littéraires de jeunesse, et le Marcel Pagnol qui est clos avec Marius et un retour à sa Provence. Elle est là, la vraie césure. À partir de Marius 1929, je crois qu'on a le même Pagnol dans la veine de son inspiration et qui gardera toute sa vie, cet esprit de liberté, d'avancer à contre-courant, d'imposer sa chance et de réussir dans tout ce qu'il touche.
Quand il est élu à l'Académie française en 1946, il a 51 ans, c'est 9 ans avant Jean Cocteau et c'est le cinéma qui entre à l'Académie française. Il n'était pas encore considéré comme un écrivain à ce moment-là.
Non, il était considéré comme un dramaturge, un très grand dramaturge et un cinéaste dilettante. Il faudra attendre les années 60 avec un fameux article de Truffaut-Godard pour réhabiliter, j'ai envie de dire, Marcel Pagnol.
Un grand cinéaste.
En tout cas en France, il était considéré déjà à l'étranger. Mais effectivement, c'est l'Académie qui reçoit pour la première fois un cinéaste et Marcel sera le premier à faire entrer les caméras dans l'Académie. C'est la première fois que nous verrons le cérémonial d'investiture d'un académicien.
Exactement. Alors à 60 ans, après un quart de siècle passé dans le cinéma, il revient au théâtre avec deux pièces, Judas et Fabien, qui ne marchent ni l'une ni l'autre. C'est à ce moment-là, je crois, qu'il écrit Gabi ou La Belle et l'Argent, hein, cette pièce inédite qui sort maintenant en bande dessinée.
Oui, je la date à peu près à cette époque-là, dû au ton de la pièce, qui passe en rappeler Fabien, ou même Judas, un ton un peu grivois, et aussi par une datation, parce qu'il fait référence à un modèle de caméra, et à Nice Matin, qui est créé en 45, cette caméra sort en 44, le retour au théâtre de Marcel se fait entre 51 et 55, donc voilà, je pense que c'était la troisième pièce qu'il aurait dû monter, qu'il n'a pas monté, mais fort heureusement pour nous tous, parce que cela donnera par la suite, ça lui donnera le temps de se pencher sur ses souvenirs et de rédiger les souvenirs d'enfance. Et
effectivement, sinon il serait redevenu probablement l'auteur de théâtre fêté qu'il avait été quand il avait la trentaine.
Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Mais je pense que vous l'avez vu à la lecture du roman graphique, nous ne sommes absolument pas dans un Marcel Pagnol chantant sa Provence natale.
Non, c'est très différent. Alors moi, c'est ce qui m'a frappé tout de suite, ça se passe dans un milieu très aisé, sur la Côte d'Azur, ce qui est assez unique dans l'œuvre de Marcel Pagnol.
Oui, on peut se référer à Topaz pour ce rapport à l'argent ou à un milieu assez aisé. On pense à Castelbénac, le conseiller municipal corrompu, ou dont on est marchand de gloire. Et ce rapport à la femme aussi, qui n'est pas sans rappeler la prière aux étoiles. Une femme libre, une femme avec des défauts, autant de défauts qu'un homme en définitive, et qui est la complice de son père, qui est une sorte de vieil escroc, un David Niven désargenté et alcoolique. Ça n'a rien à voir avec le Pagnol auquel nous sommes habitués.
L'héroïne est une jeune femme entretenue, sans scrupules, entourée d'escrocs et de margoulins, qui en veut à la fortune de ses amants. On est très loin, effectivement, des héroïnes habituelles de Marcel Pagnol, qui sont des femmes idéalisées, souvent filles mères et toujours issues des milieux populaires.
Oui, oui, tout à fait. Il avait dû faire le tour de cette thématique, ou peut-être a-t-il tout simplement voulu se réinventer au théâtre après avoir abandonné le cinéma à la fin des années 50, montrer qu'il était capable d'autre chose, vouloir faire éclater le carcan de la Provence, enfin si on peut appeler ça un carcan, mais en tout cas, voilà, vouloir montrer qu'il était capable d'autre chose. Et je pense aussi que l'âge lui avait donné une autre vision du monde, ses différentes expériences. Il avait habité à Monaco, à Paris, mais ce n'est pas sans rappeler Topaz encore une fois, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive à Paris, jeune professeur d'anglais, nourri par une éducation paternelle très stricte, il voit tous ces gens qui font des affaires, politiques, ces hommes d'affaires, et il est émerveillé, et en même temps il s'aperçoit que l'éducation qu'il a reçue ne l'a pas préparé à affronter la vie, en tout cas la vie qu'il pensait mériter avoir, c'est-à-dire celle d'un grand auteur dramatique.
On peut penser aux Spoons aussi.
On peut penser aux Spoons, tout à fait. Tout à fait. Le Spoons qui est assez autobiographique, parce que Marcel se rêvait grand auteur dramatique, sa première pièce, Catulle, en vers, d'origine, enfin d'inspiration classique, qui de son aveu même n'était pas très bonne. Et il arrive à Paris, il écrit deux pièces assez sérieuses, l'une avec Paul Nivoy, Les Marchands de Gloire.
Il faut rappeler qu'à l'époque, il est professeur d'anglais à Condorcet.
Hein. Tout à fait. Il est professeur d'anglais à Condorcet. Et il va se découvrir une veine comique avec Topaz. Et d'un coup, ça marche. Donc il se retrouve un petit peu dans la situation d'Irénée, qui part pour être un grand tragédien et qui se révèle être un grand acteur comique, pensant que son oncle allait l'admonester, parce qu'on ne met pas le nom de famille à côté de pantalonnade. Bah, peut-être que Marcel aussi avait un peu honte vis-à-vis de son père.
Irénée, c'est évidemment Fernandel dans le Spoons. Pourquoi les pièces qu'il a écrites après la guerre n'ont-elles pas marché? Judas et Fabien, je ne les connais pas. J'ai lu tout Marcel Pagnol, mais ces deux-là, je ne les connais pas. Qu'ont-elles de particulier? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas?
Judas, c'est une tentative de réhabilitation de Judas, où Marcel dit que le Christ a autoréalisé sa prophétie en intimant l'ordre à Judas de le trahir pour 30 deniers. Voilà. Bon, forcément, les catholiques l'ont mal pris. Dans la pièce, il y a quelques références. La communauté juive l'a traité d'antisémite. Et puis, le premier rôle, Raymond Pellegrin a fait une syncope lors de la première, donc on a pris la doublure, qui est tombée malade, donc on a pris le troisième remplaçant. Bon, et tout ça s'est effondré au bout de quelques semaines. Et Fabien connaît on vient de le remonter avec une compagnie du Sud qui s'appelle Dans la cour des grands. Je leur fais un peu de promotion, ce sont mes amis, je les aime bien. Et Fabien a beaucoup de succès aujourd'hui, mais c'était pas une pièce pour son époque, parce qu'il y est question de ce qu'on appelle aujourd'hui le pervers narcissique, la manipulation, le droit des femmes, la place de la femme, la place de l'obésité, de la difformité aussi, parce qu'il y a des monstres, ça se passe dans un cirque, et il y a pas de héros sympas dans Fabien, ils sont tous tarés, donc il n'y avait pas d'identification possible du public.
C'est un peu le cas aussi dans Gabi, la Belle et l'Argent, elle est absolument épouvantable, et la plupart de ceux qui l'entourent aussi. Comment l'avez-vous retrouvé cette pièce? Parce que ça doit être à la fois magique et exceptionnel pour le petit-fils, l'ayant droit, que de retrouver une pièce inédite de son grand-père. Où? Comment?
Chez ma grand-mère, Jacqueline Pagnol, Manon Dessources, qui habitait toujours dans l'hôtel particulier parisien où ils ont été tellement heureux, si heureux pendant des années. Et je faisais un petit état des lieux des archives au grenier. Enfin, énormes archives, plusieurs pièces remplies de cartons de manuscrits, et je suis tombé sur cette pièce, une partie du manuscrit et trois tapuscrits, mais ma grand-mère refusait que ces archives sortent de chez elle. Elle considérait, enfin, je pense qu'elle devait se sentir en sécurité, que son mari était un petit peu à la maison. Et suite à son décès, en 2016, s'est posé la question « qu'allons-nous faire de Gabi ?» Et avec Elsa Lafont, nous avons décidé d'en faire un roman graphique parce que je ne me sentais pas la responsabilité de publier le texte intégral d'une œuvre que mon grand-père n'avait pas publiée de son vivant.
On peut le comprendre, effectivement. Merci Nicolas Pagnol. Gabi ou la belle et l'argent, ça vient donc de sortir en bande dessinée par Véronique Grissot et Luc Brahi chez Michel Lafon.